Et nous voilà maintenant au kilomètre 275 de notre parcours, depuis Source-Seine jusqu'au Havre d'où Gauguin s'est embarqué. Et au kilomètre 275, nous sommes ici au 7 rue du Faubourg-Montmartre, dans une petite cour qui est la cour du Bouillon-Chartier. Alors le Bouillon-Chartier, les Parisiens connaissent le Bouillon-Chartier, les amateurs de littérature le connaissent, puisque dans les beaux quartiers, c'est là où Aragon fait dîner un étudiant en médecine du nom de Barbantane. C'est également là que Fernandel place sa tentative de séduction de Félicie dans Félicie aussi, puisque Félicie aussi est emmenée par le narrateur, si je puis dire, de cette chanson au Bouillon-Chartier, où elle apprécie particulièrement le cochon grillé. Alors le Bouillon-Chartier, qui est un beau bâtiment début XXe siècle, s'élève à l'endroit où s'élevait avant une fabrique de cartouches pour l'infanterie, puisqu'il y avait des fabrications d'armement en plein Paris. Et des cartouches pour l'infanterie, nous allons passer à cette autre explosion qui a été le mouvement surréaliste. Le mouvement surréaliste est un mouvement auquel André Breton a donné dès l'origine une dimension absolument généalogique. Il y a des auteurs qui n'éprouvent pas le besoin de s'inscrire dans une généalogie particulière. Après tout, Apollinaire n'a pas éprouvé ce besoin, non plus d'ailleurs véritablement que Chateaubriand, en tout cas en matière de généalogie littéraire. Et le mouvement surréaliste, au début, est un mouvement généalogique. Breton se réclame d'Apollinaire, il se réclame de Jacques Vacher, l'auteur des Lettres de guerre, qui est mort à Nantes d'une overdose d'opium et qui a extraordinairement compté pour lui. On se souvient de la phrase du manifeste surréaliste « Jacques Vacher est surréaliste en moi ». Et il se réclame surtout de cet auteur extrêmement mystérieux qui s'appelait Isidore Ducasse, qui était né en 1846 à Montevideo, où son père était chancelier de l'ambassade de France à Montevideo, et qui est mort ici même, au 7 rue du Faubourg-Montmartre, en novembre 1870, dans le Paris de la guerre et du siège, à l'âge de 24 ans. Et c'est à ce propos que Breton a écrit « Pour nous, il n'y eut pas de génie qui tint devant celui de Lautréamont ». Isidore Ducasse avait en effet choisi comme pseudonyme le pseudonyme de Comte de Lautréamont, et c'est sous ce pseudonyme qu'ont été publiées ses poésies, les Chants de Maldoror d'une part, et puis le premier et deuxième volume de ses poésies. C'est une sorte de météore dans la vie littéraire française, mort à 24 ans, auteur de ce livre de poésie extrêmement marquant qui a inspiré le surréalisme et un très grand nombre d'écrivains postérieurs, jusqu'à Roger Caillois par exemple, qui sont les Chants de Maldoror. Et cette espèce de trajectoire d'astre noir terminée par cette mort ici de Ftizi à l'âge de 24 ans lui a donné une aura romanesque absolument considérable. C'est une aura qui va au-delà de simplement d'une espèce de romantisme au fond un peu analogue à celui de Rimbaud, un très jeune poète qui révolutionne la poésie de son temps et qui disparaît exactement comme Rimbaud a cessé d'écrire quand il est parti pour Alexandrie, Chypre ou Aden et a disparu. On se souvient de Rimbaud disant, revenant au cours d'un de ses voyages à Roche, à Delahaye, qui lui demandait s'il écrivait encore, « Mais non, je ne m'intéresse plus du tout à ça ». Il y a une dimension de même nature chez Lautréamont. Lautréamont avait une conception si absolue de la création qu'au fond, sa mort a simplement été une autre manière de constater l'impasse de la création littéraire. Pour Lautréamont, comme pour Rimbaud, la littérature n'est pas un art d'ornement, ça n'est pas quelque chose de décoratif, ça n'est même pas quelque chose qui sert à investiguer le monde, c'est véritablement l'instrument d'une sorte de salut personnel, de transformation intérieure absolument mystérieuse et qui, pour l'un comme pour l'autre, a débouché de manière fortuite ou non sur l'échec. Dans cette activité créatrice, il a produit des images qui ont inspiré le premier mouvement surréaliste. Des images dont on se souvient, le rubis du champagne, le canard du doute aux lèvres de vermouth dont Breton a souvent parlé, et puis surtout la célèbre rencontre sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie qui pourrait servir pour décrire un assez grand nombre d'activités, y compris un assez grand nombre d'activités politiques françaises. Tous les surréalistes se sont inspirés de Lautréamont, le grand peintre Wilfred Olam, quand il a fait l'une des cartes du jeu des tarots de Marseille, une œuvre surréaliste célèbre faite par Breton et par ses amis avant l'embarquement pour New York au moment de la défaite. Eh bien, il a consacré, Wilfred Olam a consacré l'une de ses cartes, qui est l'une des plus belles du jeu du tarot de Marseille, à Isidore Ducasse, comte de Lautréamont. Avant de mourir ici, Lautréamont avait écrit son testament, et ce testament portait cette phrase mystérieuse. Il avait demandé qu'on mette sur la porte de l'appartement où il devait mourir, quel que soit cet appartement, la phrase suivante. Qui ouvre la porte de ma chambre funéraire, qui que vous soyez, éloignez-vous. Nous sommes ici dans la cour du 7 rue du Faubourg-Montmartre et pendant 50 ans, on pouvait voir ici, j'y suis souvent allé, une sorte de plaque en ébonite noire, comme on faisait à l'époque, sur laquelle il y avait marqué cette phrase « Qui ouvre la porte de ma chambre funéraire ?» Qui que vous soyez, éloignez-vous. Et puis, il y a un an ou deux, en repassant, une simple petite affichette indiquait que cette plaque avait été enlevée sur demande de la société des copropriétaires. Je me suis longuement interrogé sur cette demande. Est-ce que ces copropriétaires n'aimaient pas le comte de Lautréamont ? Est-ce que l'idée qu'il pouvait y avoir ici quelque chose comme un mastaba, une chambre funéraire, les choquait particulièrement ? Toujours est-il qu'il n'y a plus rien et que si on se rapproche, nous allons un peu nous rapprocher ici d'un des piliers, sur un des piliers... Un amateur de Lautréamont, un disciple lointain, est simplement venu graver à l'endroit que l'on voit qui est vide maintenant et poussiéreux, à l'endroit où il y avait cette plaque, est venu graver simplement les mots « Ici vécu Isidore Ducasse, le comte de Lautréamont ». C'est à l'heure actuelle tout ce qu'il en reste. Juste à côté d'ici, il y a une église qui est Notre-Dame de Lorette. Et c'est là où j'ai appris assez curieusement, parce que Ducasse est, si je puis dire, tout sauf un écrivain religieux, et Dieu sait que les surréalistes ne l'étaient pas davantage. De manière assez mystérieuse, chaque 24 novembre, pas des intervalles très réguliers, c'est pas chaque année, c'est de temps en temps, une fois tous les 3 ans, une fois tous les 5 ans, parfois même une fois tous les 10 ans, un certain nombre d'amateurs de Lautréamont se réunissent pour faire célébrer une messe en souvenir de la mort d'Isidore Ducasse. C'est ainsi que le 24 novembre 2010, à Notre-Dame de Lorette, je suis entré pour assister à une messe en souvenir de l'absoute qui avait été donnée dans cette même église par l'abbé Sabatier au moment du siège de Paris. C'était un temps déraisonnable, comme dit Aragon, c'était le siège de Paris, les gens n'avaient pas à manger. Mon arrière-grand-mère, que j'ai connue, tenait de sa propre mère avait mangé à cette occasion les animaux du jardin des plantes. C'était une époque où les pauvres mangeaient les rats de Paris et les riches allaient acheter en fraude des quartiers d'oreilles d'éléphant ou du steak de zèbre pour pouvoir se nourrir pendant cet épouvantable hiver qui a été l'hiver de 1870. Après cette absoute, on a ramené le corps de Lautréamont pour qu'il soit enterré au cimetière Montmartre. Il a été mis dans une tombe provisoire. Ses ossements ont ensuite été réduits, dispersés on ne sait où, ce qui fait qu'il ne reste rien de celui qui a été, pour les surréalistes et pour les amateurs de poésie moderne, l'un des grands météorites des lettres, né à Montevideo, ayant vécu à Tarbes et mort à Paris en 1870 à l'âge de 24 ans. On a très très peu de photos de Lautréamont. On en a une qui a été découverte il y a simplement quelques années. Et cette photo montre une très belle tête de ce jeune homme énergique qui a si bien parlé de l'accouplement avec la femelle du requin et au fond, au-delà de ça, si bien montré par cette métaphore du poète qui se trace à la pointe du couteau un deuxième sourire sanglant au-dessus du premier, qui a bien montré d'une certaine manière l'impasse de toute vie littéraire. Et le fait que si cette vie littéraire n'était qu'un faux semblant décoratif, qu'une manière de passer le temps, au fond, elle ne valait pas du tout d'être vécue.